Bonjour, vous écoutez France Culture en ce dimanche matin 8h30 et donc jour et heure de soleil, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Jean-Luc Gadreau, émission que vous pouvez aussi retrouver ensuite en podcast sur l'application Radio France. Si cette année la Pâque juive est donc... La Pâque sans S sera célébrée entre le 22 et le 30 avril. C'est bien aujourd'hui que Pâques, cette fois-ci avec un S, est fêtée du côté des chrétiens. En plus, nous sommes le cinquième dimanche du mois qui offre généralement dans Solae l'occasion d'un dialogue entre un ou une protestante avec quelqu'un d'extérieur, entre guillemets, à la fois protestante. Alors en combinant tout cela, eh bien, je vous propose que ce dialogue soit autour de Pâques, avec et sans S. Et c'est pourquoi j'ai le grand plaisir d'accueillir Rivonne Crigier, rabbin de la communauté Ma Sortie Hadat Shalom, à Paris dans le 15e arrondissement. Bonjour Rivonne.
Bonjour.
Mais aussi Evelyne Villemuller, qui se définit comme une laïque protestante exerçant différentes responsabilités, dont celle de prédicatrice, très engagée au niveau du dialogue judéo-chrétien et à ce titre vice-présidente de l'Amitié judéo-chrétienne de Strasbourg. Vous êtes aussi membre de la commission de la Fédération protestante de France dans le dialogue avec le judaïsme et puis également dans le comité de la commission européenne luthérienne Église et judaïsme. Bonjour Evelyne.
Bonjour Jean-Luc.
Rabbin Rivonne Crigier, vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres « L'homme face à la révélation », également « Si Dieu sait l'avenir, sommes-nous libres d'agir ?» Un sujet très intéressant.
Vous m'inviterez pour une autre émission.
Voilà, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. C'est un essai théologique sur l'omniscience et le libre arbitre dans la pensée juive. Mais aussi, et cela nous concerne donc plus aujourd'hui, la Haggadah de Pessah aux quatre visages, avec de magnifiques peintures et dessins de Gérard Garoust, et puis suivi d'un commentaire alors que je trouve délicieux à titre personnel, intitulé « La saveur de l'azim ». J'ajouterai aussi que le 21 mars 2010, ça vous rappelle peut-être quelque chose, vous étiez intervenu pour les conférences du Carême à Notre-Dame. C'était la première fois qu'un rabbin prenait publiquement la parole en ce lieu, dans le cadre de ces grandes conférences. Conférences qui avaient d'ailleurs été, pour la petite anecdote, chahutées par un groupe d'intégristes catholiques de la paroisse Nicolas de Chardonnay qui criait à la profanation et avait dû être évacué par le service d'ordre. Alors, point de danger ce matin dans les studios de Radio France.
Vous me rassurez là.
En tout cas, je l'espère. Que représente Pessah pour vous, Rivonne Crigier? Peut-être plus spécifiquement à titre personnel.
Une grande émotion. C'est un grand rendez-vous personnel, familial, communautaire. C'est une des fêtes les plus suivies avec celle de Kippour, le jour du grand pardon. Même les laïcs se réunissent le soir parce que c'est une espèce de récit national, entre guillemets, c'est-à-dire l'histoire du peuple juif, la naissance du peuple juif, puisque la sortie d'Égypte, c'est la sortie de la matrice égyptienne. C'est comme ça que c'est perçu et que le peuple advient à lui-même en sortant d'Égypte, en se tournant dans le désert pour la réception de la Torah et puis vers son destin ensuite en terre d'Israël.
Alors nous reparlerons bien sûr de l'histoire et puis de cette dimension du souvenir et de la transmission. Rivonne, Evelyne,
oui.
Dans Solae, nous avons chaque dimanche un rendez-vous avec la parole, l'occasion d'entendre un texte biblique. Et ce matin, dans ce contexte un peu particulier, je vous en propose deux assez courts. L'un dans le début du Premier Testament, la Torah, le livre de l'Exode, le chapitre 12, les versets 25 à 27. Et puis le second dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 7 et 8. Les deux textes nous étant lus par le comédien Thierry Cazazian.
Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur a promis de vous donner, vous accomplirez cette cérémonie. Si vos enfants vous demandent ce qu'elle signifie, vous leur répondrez « Il s'agit du sacrifice à l'occasion de la Pâque pour le Seigneur, lui qui a passé au-dessus des maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il punit les Égyptiens, mais qu'il épargna nos familles. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Célébrons donc la fête de la Pâque, non pas avec du pain fait avec le vieux levain de la malfaisance et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité.
Pendant les fêtes de Pessah, les Juifs célèbrent donc, comme vous l'avez indiqué, Rivonne, le passage de l'esclavage en Égypte à la liberté. À Pâques, les chrétiens célèbrent le passage de la mort à la vie. Cette fête chrétienne est donc intimement liée à Pessah, pour traduire le sens que les chrétiens attribuent à la mort et à la résurrection de Jésus, cet agneau pascal, comme nous venons de l'entendre. Evelyne, oui. N'est-ce pas ce qui unit finalement ces deux fêtes parallèles, passer de l'esclavage mortel à une résurrection qui offre la liberté ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, la lecture que nous venons d'entendre, de la première épître de Paul aux Corinthiens, renvoie bien au texte du Premier Testament, avec la fête des pains sans levain dans Exode et 12 et dans Deutéronome 16. Et je crois que c'est important de bien reprendre conscience que cette fête chrétienne de Pâques, comme vous le disiez, est intimement liée à Pessah. Et pour traduire, pour des chrétiens que nous sommes, cette importance de ce passage de la mort à la vie. Et avec tout ce message d'espérance aussi qu'il y a dans cette symbolique. C'est vrai que dès les débuts des textes chrétiens, on a bien le rappel que Jésus s'est rendu à Jérusalem pour célébrer Pessah. Et les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, décrivent bien un repas de Pessah que Jésus prend avec ses disciples. Et après, la transposition dans la scène est d'une certaine façon, je dirais presque, un céder christianisé.
Rivonne ?
Oui, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, la présentation de la fête de Pessah comme passage de la mort à la vie ou le retour à la vie, c'est déjà clairement dans la thématique de l'Exode. Ouais. Puisque, en fait, comme le passage que vous avez, qui a été lu le décrit, il y avait une menace de mort qui pesait à la dixième plaie. Les enfants d'Israël se protègent en accomplissant un rite, celui du sacrifice pascal, qui était, selon la compréhension, l'idole, une des idoles de l'Égypte. À partir de là, ils échappent à la mort.
C'est ça.
Et au troisième jour, ils sortent de leur maison, et pour aller vers la vie. Donc, on voit par cet exemple comment la tradition chrétienne s'est greffée et a superposé une nouvelle signification, oui. Mais sur quelque chose qui est déjà existant. Effectivement, comme l'a rappelé Evelyne, à juste titre, on a toutes les raisons de penser que dans les synoptiques, c'est bien une soirée, un symposium de Pessah qui est en train de se produire. Et Jésus présente le pain, il présente le vin. L'agneau est absent, mais sans l'être, puisqu'il dit, il laisse entendre que ce sera lui, l'agneau. Donc on est vraiment au cœur de la thématique. Il reprend cette idée d'un sacrifice qui va être dépassé pour la vie en l'associant à son œuvre personnelle.
Il y a d'ailleurs une très belle symbolique quand on parle du passage de la mort à la vie dans ce départ d'Égypte. C'est aussi cette traversée de la mer qui, quelque part, oui. Là, donne un sens encore peut-être plus fort d'une forme de résurrection.
Totalement. Et en plus, le passage qui est lu de Corinthiens, de l'épître aux Corinthiens, qui parle du vieux levain et de la nouvelle pâte, mais en réalité, c'est exactement ce qu'on célèbre à Pessah. Dans la fête juive, il faut se débarrasser le soir qui précède la veille de Pessah, de tout le vieux levain. Et au lendemain de la fête, et donc c'est ça qui fait les trois jours, au lendemain de la fête, on peut commencer à utiliser la nouvelle récolte. Donc on est vraiment au cœur de cette thématique, avec toute l'idée de laisser derrière soi les atavismes, toutes les aliénations, pour aller vers la liberté.
Un commandement central de la fête est aussi de raconter aux enfants l'Exode et la libération afin de leur permettre à eux aussi donc de s'identifier de cette manière à l'histoire d'Israël. Les quatre visages de la Haggadah de Pessah, pour reprendre le titre de votre livre, sont d'ailleurs quatre types d'enfants auxquels les parents sont censés transmettre la mémoire de la sortie d'Égypte. Cette notion du souvenir et de la transmission, c'est fondamental finalement dans la tradition juive et dans la pratique.
C'est capital. La fête de Pessah, s'il fallait la qualifier d'un mot, c'est le rite de la transmission. Haggadah, d'ailleurs, veut dire récit. Et c'est le récit de l'ancienne génération à la nouvelle génération. Et c'est vrai que la tradition juive présente ça comme un défi, j'ai presque envie de dire comme une gageure, puisqu'il faut raconter quelque chose qui s'est passé à 3000 ans avec tous les quarts de mentalité que ça suppose, oui, à quatre enfants, on en a pris quatre, qui ont tous des caractères différents, parce que c'est ça le grand défi éducatif, c'est qu'on ne peut pas avoir le même discours à chaque enfant. Il y a un enfant qui est rebelle, il y a un enfant qui est très érudit, il nous pose des colles, il y en a un qui s'intéresse à rien, il pose pas de questions.
Et donc, faut l'intéresser.
Heureusement, il y en a un qui est simple, il avale tout ce qu'on lui dit. Mais il faut pouvoir, heureusement, et en même temps, c'est un grand piège. Et le livre de l'Argada a pour objectif, mais encore une fois, c'est un immense défi, de tenter de répondre à ces quatre types d'enfants. Et comme vous l'avez très bien expliqué, dans le livre de l'Exode même, déjà, on voit ce dialogue se mettre en place. Si ton enfant te pose la question, alors tu lui répondras. Et ce questionnement est resté le cœur de la tradition juive.
Evelyne, il y a aussi un peu de cela dans Pâques, une certaine manière, avec notamment la semaine qui précède,
tout
ce qu'on appelle
fait,
la semaine sainte, de rappeler les derniers événements de la vie de Jésus.
Oui.
Et puis dans certaines traditions, d'ailleurs, on pratique le baptême des catéchumènes
à
l'occasion de Pâques. Donc on est aussi là dans souvenir, transmission.
Tout à fait. Et je dirais même ce rituel que vous rappelez, on l'a d'une certaine façon dans la scène, avec le partage du pain et du vin, qui rappelle à la fois la mort et aussi le passage à la vie, peut-être même en anticipant un festin du retour. Mais ce sens spirituel nous paraît tout à fait important, et on est au-delà du geste, d'un rite, mais bien dans quelque chose qui rend ce moment tout à fait contemporain. Et là, je pense, enfin moi j'y vois aussi des points communs, c'est-à-dire qu'on est à la fois, on vit en mémoire de ce repas que Jésus a institué, mais on est aussi dans quelque chose de tout à fait contemporain. Et ça, ça me paraît tout à fait important. Alors, vous évoquiez la veillée pascale, où effectivement, le baptême était un moment important, pour, en particulier pour les premiers chrétiens, et on est bien là au cœur de ce qui constitue les deux sacrements, la Sainte Cène et le baptême. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est tout à fait constitutif de notre foi chrétienne.
Et alors, peut-être l'un des grands points communs entre juifs et protestants, c'est cette importance qui est donnée à Pâques comme le cœur, finalement, le cœur de la foi.
Complètement. Alors pour nous, Noël et Pâques, ce sont vraiment les deux fêtes majeures du christianisme. Et avec cette insistance, et pour moi personnellement, Pâques est la fête par excellence.
C'est ce que la plupart des protestants disent, je crois.
Oui, alors je voulais pas être originale en disant ça, mais ça fait partie de mes convictions profondes. Avec cette idée très forte qu'on est dans une profonde libération spirituelle, mais pas seulement d'une mort physique, mais aussi de toutes nos morts spirituelles, desquelles nous sommes appelés à nous libérer avec l'aide de Dieu.
Et donc, pour les Juifs, vous le disiez, Pessah, et puis Kippour.
Oui, Pessah et Kippour, parce que ce sont des fêtes qui touchent à des questions très très fondamentales. À Kippour, il s'agit de racheter son âme. C'est le grand rite du pardon, c'est au cœur de la tradition chrétienne, mais c'est le thème présent au cœur de la tradition juive. Pessah, c'est une affaire d'émancipation. On n'est pas tourné vers le passé en train de faire le bilan et pour corriger les choses. On est en train de prendre son élan vers quelque chose de neuf. Et Evelyne rappelait, il y a quelques instants, un rite qui est le partage du pain, qui joue un rôle très important chez les chrétiens avec l'Eucharistie. Figurez-vous, et ça beaucoup de chrétiens l'ignorent, mais aussi beaucoup de juifs l'ignorent, c'est que nous avons un rite tout à fait équivalent dans la soirée pascale. Un moment décisif au début de la soirée, on prend les pains et on les coupe, mais on ne les distribue pas, ce qui est tout à fait exceptionnel. On cache une partie, et cette partie-là est réservée tout à la fin du repas. C'est-à-dire à la fin du repas que l'Eucharistie originelle était prononcée. Et ce pain est ensuite distribué à tous les membres du CDR, pour communier tous ensemble et solennellement entrer dans la communauté d'Israël. Le premier rite de communion se passe, si vous voulez, à l'échelle du peuple juif. C'est le Thanksgiving, sauf que c'est pas une dinde. C'était à l'origine un agneau, et puis c'est devenu un bout de pain azim, comme l'hostie par la suite,
oui.
est devenu l'élément fédérateur pour réunir les chrétiens.
Oui, merci de rappeler, je crois que c'est important de rappeler à quel point notre tradition chrétienne s'inscrit dans cette tradition. Et ça, je crois qu'on ne le dira jamais suffisamment pour beaucoup de personnes.
Alors, j'ai envie de lire quelques lignes qui ouvrent votre commentaire, Les Saveurs de l'Azyme. Alors, paradoxalement, ce ne sont pas les vôtres, mais ils viennent donner du sens à vos mots, et je donnerai la référence après. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des autres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. C'est un extrait d'À la recherche du temps perdu, du côté de chez Swann, de Marcel Proust. Alors, vous pouvez commenter, nous dire quelques mots, pourquoi ce choix pour ouvrir ce commentaire ?
J'ai presque envie de dire que ça se passe de commentaire. J'ai vraiment un frisson au moment où je vous entends encore relire ce passage. Quelle grandeur Oui, ce que je veux peut-être souligner, c'est que la force du rituel de Pessah, c'est que tout est dans la nourriture. Il y a sur la table des tas de mets qui tous ont des significations symboliques. L'un, par exemple, représente par son amertume l'oppression en Israël, l'autre la liberté. Et chaque goût est évocateur. On parle de quelque chose de très très matériel, de quelque chose de très très immédiat, j'ai presque envie de dire de quelque chose de très biologique. Mais on éveille tout l'être, depuis les tripes jusqu'aux parties les plus intellectuelles. Et s'il n'y a pas cet éveil complet, il n'y a pas de pleine liberté. Et je crois que Proust était très inspiré. Hein. Il raconte lui-même que le seul rite juif qui restait encore de sa famille, c'est quand il se rendait au cimetière et qu'il savait qu'il fallait déposer un petit caillou sur la tombe. Plus personne ne savait pourquoi, mais ce rituel-là, à lui seul, évoquait un immense pan de souvenirs et cette part non exploitée, mais toujours au cœur de l'identité de Marcel Proust.
On parle des Madeleines, mais on pourrait parler du petit caillou de Proust aussi.
Tout à fait.
D'ailleurs, Evelyne, oui. Je sais que beaucoup de paroisses, de communautés chrétiennes oui. et protestantes en particulier, aiment vivre, recréer ce repas de céder pour essayer de comprendre les symboliques et pouvoir puiser là aussi, en tant que chrétien, dans cette tradition
juive. Je peux dire que dans ma paroisse, tous les jeudis 10 saints, nous célébrons un céder en reprenant vraiment les différents temps tels qu'ils sont dans la Haggadah. Et je pense que c'est important aussi de faire prendre conscience qu'on est là dans quelque chose de l'ordre du signe visible, d'une grâce invisible. Permettez-moi de rappeler un petit peu la formule de Calvin qui disait que ce temps est aussi une béquille pour soutenir l'imbécilité de notre foi. Je crois que là, on a quelque chose aussi qui est tout à fait important, y compris pour nos contemporains, de bien prendre conscience de tous ces éléments, à la fois physiques, mais aussi avec un sens important.
Nous évoquions tout à l'heure les convergences donc entre juifs et chrétiens, et cela me donne l'occasion d'évoquer, Evelyne, la grande campagne d'affichage œcuménique européenne, oui. « Juifs et chrétiens, plus proches que tu ne le penses
oui. ».
C'est le titre de cette campagne. Oui. Dans ce que nous voyons en Europe, avec et on ne peut pas faire silence là-dessus, cette recrudescence dangereuse de cet antisémitisme, et puis toutes les autres formes de racisme quelque part aussi derrière, c'est important d'établir des passerelles, de revenir sur ces choses essentielles.
Tout à fait, oui. Oui, et je crois que ça a été, enfin, c'est pas je crois, je suis convaincue que c'est un des éléments fondamentaux de cette campagne, qui est une campagne européenne, puisqu'elle existe dans différents pays, et nous avons réalisé une version française. Une des idées fortes, c'est que précisément l'enracinement du christianisme dans le judaïsme est particulièrement visible dans les fêtes chrétiennes. Et nous venons de l'illustrer à travers Pessah, mais on pourrait aussi le dire à travers Shavuot et Pentecôte. Et c'est précisément un de ses objectifs de montrer à la fois la proximité, mais aussi insister sur le fait que cette proximité n'est possible que dans le respect de la différence et des différences. En faisant référence au judaïsme de manière respectueuse et en encourageant une réflexion positive sur la diversité de la vie juive, aujourd'hui comme nous essayons de le faire dans cette émission, la campagne essaye vraiment de contribuer à la lutte contre l'antisémitisme. Parce que nous sommes aussi persuadés que c'est précisément sur le lit de l'ignorance que naissent tous les préjugés. Exactement. Et tous les dérapages. Et Dieu sait que actuellement, enfin pardon l'expression Dieu sait, mais actuellement on assiste à des choses très graves. Et là on ne peut en être que révolté et il nous appartient de condamner très vigoureusement, sans aucune excuse, aucune, ces manifestations horribles.
Rivon, comme rabbin, comment vous vivez ces choses actuellement, cette période actuelle ?
Je veux dire, d'abord en entendant les paroles d'Evelyne, je suis très, très, très ému parce que je pense que un des tout grands événements du XXe siècle a été que après la Shoah, des chrétiens ont pris conscience de l'antisémitisme qui avait sévi pendant des siècles. Et il y a eu un volte-face tellement puissant qui fait qu'aujourd'hui, alors que juifs et chrétiens se regardaient en chaîne faïence et qu'il y avait une haine profonde, aujourd'hui, juifs et chrétiens se tiennent main dans la main et portent ensemble un formidable espoir. Parce que cette capacité qu'ont eu les églises, et les protestants étaient très militants en la matière, à réviser leur théologie pour à envisager sous l'angle de la fraternité les liens avec une autre religion, en l'occurrence le judaïsme, donne un espoir formidable par rapport à cette période que nous vivons où on a l'impression que le fossé ne pourra jamais être comblé, que l'écart des mentalités et des religions est tel qu'on ne cessera jamais de se détester. Ben non. Ce que les chrétiens et les juifs, ensemble, ont accompli main dans la main est un démenti cinglant de cette situation.
Alors, je me permets de dire que pour tous ceux qui seront intéressés, parce que ces affiches existent, elles sont facilement téléchargeables et elles se retrouvent sur le site de la Fédération protestante de France, dans la rubrique Commission de relations avec le judaïsme. Et tout un chacun, des paroisses, des groupes d'enseignement, peuvent les télécharger avec aussi des commentaires pour pouvoir travailler sur cette dimension qui est tout à fait fondamentale de connaissance réciproque.
Eh bien, merci à vous deux. Je vous propose, Rivon et Evelyne, de nous diriger tranquillement vers la fin de l'émission, mais en allant sur un autre sujet, quelques instants, en écoutant la chronique que nous propose Édouard Van Deventer pour sa chronique écolo du cinquième dimanche du mois, et qui, malgré tout, lui aussi, permet de revenir sur le sens de Pâques et de Pessah. Enfin, je vous laisse écouter.
Aujourd'hui, en ce dimanche spécial, ce glorieux matin de Pâques, j'ai sincèrement envie de faire la fête, de fêter avec les chrétiens et les juifs la libération de l'esclavage et l'espérance d'une vie sans souffrance. Alors ne comptez pas sur moi pour vous rabâcher les oreilles avec des préconisations de transition énergétique ou de décarbonation de l'industrie ou des églises, et encore moins de tirer des sonnettes d'alarme sur telle limite planétaire qui a été franchie et qui nous condamnerait toujours plus à un effondrement brutal. Non, non, non. Ce matin, j'ai envie de courir à perdre haleine pour vérifier si la pierre a bien été roulée. J'ai envie de ressentir le tressaillement de Marie-Madeleine lorsqu'elle reconnaît Jésus. Et j'ai envie d'être l'un de ces pèlerins d'Emmaüs dont le cœur brûlait en écoutant le Christ ressuscité. Aujourd'hui, j'ai envie de fêter Pâques, voire même la Pâque, Pessah. Alors je me suis renseigné sur la signification de ce mot Pessah. Il signifierait « passer au-dessus ». Comme la mort est passée au-dessus des maisons des Hébreux sans tuer qui que ce soit. Pâques, c'est l'histoire d'un passage, celui aussi d'un peuple qui quitte l'Égypte, qui quitte la condition d'esclave pour embrasser la liberté. Pessah, c'est le bonheur immédiat de voir la mort épargner sa famille, et c'est l'espérance d'un pays libre. Chez les chrétiens, nous avons ce même mouvement de « déjà, pas encore ». Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous nous réjouissons de cette bonne nouvelle toujours vraie aujourd'hui. Tout est accompli. Dans le même temps, nous recevons l'espérance de la résurrection qui nous délivre et nous délivrera de notre corps mortel. Ce Jésus qui est ressuscité, c'est le Christ, le Messie attendu par les Juifs. Mais comment ne pas s'attendre, quand on est juif du début du 1er siècle, subissant les contraintes et l'autorité aveugle de l'envahisseur romain, comment ne pas s'attendre dans la personne du Messie à un libérateur, un vrai, un concurrent de Rome qui pourra lever une armée pour reconquérir le pays promis? Et comment ne pas imaginer la déroute quand on voit un Messie non violent, humble, marginal? C'est que Jésus propose d'abord de le rencontrer, pour découvrir qu'il est bien le Messie, et que la liberté qu'il propose est bien plus intense et profonde qu'une simple liberté politique. Pâques est une histoire de passage, de mouvement, de transition. L'écologie aussi, c'est une histoire de transition. Je crois que cette fête de Pâques peut nous faire passer d'un espoir écologique à une espérance véritable. Pas seulement l'espoir d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais l'espérance d'un autre rapport à l'autre être vivant, humain ou non humain. Peut-être que la liberté rappelée par la fête de Pâques est aussi une libération possible de notre rapport de prédation au reste du vivant. Et en suivant l'exemple de Pâques, nous pouvons déjà manifester cette promesse qui n'est pas encore là, en vivant aujourd'hui comme des êtres libres et qui libèrent.
Des êtres libres et qui libèrent, un joli programme pascal, que l'on soit juif ou protestant. Oui. Merci Edouard, et puis merci à vous deux, Evelyne Villemuller et Riven Crigier. On rappelle le titre de ce très beau livre, La Haggada aux quatre visages, de Riven Crigier, avec les peintures de Gérard Garouste, aux éditions In Press. Et puis cette exposition que l'on peut retrouver...
Oui, alors les affiches se trouvent sur le site
de la Fédération protestante.org.
Voilà, protestant.org. Et puis elle existe aussi sous forme de panneaux qui sont empruntables. Donc tous les renseignements se trouvent sur le site.
Merci à vous deux. Et puis je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques à venir pour vous, Rabbin Riven Crigier.
À vous et puis à tous ceux qui nous écoutent.
Oui.
Et puis, bonne fête de Pâques, Evelyne.
Oui,
aussi.
Merci. Et puis à tous nos auditeurs et auditrices. Et merci à l'un et l'autre.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Max James et avec Manuel Couturier à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Ce matin de 10h à 11h sur France 2, c'est Présence protestante qui vous propose de vivre le culte de Pâques en Eurovision avec la paroisse luthérienne de l'Unité, une communauté multiculturelle et intergénérationnelle à Noisy-le-Grand. Mais sur France Culture, à suivre les informations, puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Un très bon dimanche de Pâques à chacune et chacun. Michel.